bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eau de Vie. Aujourd'hui, on part pour un épisode un peu particulier où on va parler reprise et développement d'une très belle marque de liqueur qui s'appelle Acheteoria. Je suis en compagnie de François Longteau, cinquième génération de la distillerie Longteau, maître de chez de la distillerie, mais aussi directeur commercial et marketing. Et on fait un épisode à trois puisque je suis aussi en compagnie de Florent Daubusson, fondateur de la maison de l'hédonisme, une très belle société de distribution de spiritueux à forte identité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour Louis-Marie.
Alors on avait déjà tourné un épisode avec toi François autour de cette aventure familiale avec la distillerie Longteau, mais aujourd'hui on va effectivement, comme je disais en préambule, parler reprise, développement et d'une très belle marque de spiritueux qui s'appelle Acheteoria. Peut-être avant pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'univers des spiritueux, est-ce que ça a été une passion depuis toujours et pourquoi en avons fait votre métier?
Merci Louis-Marie. Donc effectivement, alors mon parcours et mon rapport aux spiritueux est effectivement très particulier puisque c'est depuis ma tendre enfance que je suis bercé aux odeurs et au distillat du rhum agricole. Donc évidemment très proche de l'univers du rhum agricole dans un premier temps, passionné par ce monde du rhum agricole et au fur et à mesure de mes rencontres avec mes distributeurs, avec nos partenaires, avec nos clients, chacun d'entre eux ou d'entre elles m'ont fait découvrir effectivement un bon nombre de spiritueux que j'avais pas forcément accès en Guadeloupe, et ma passion pour le spiritueux d'une manière générale est venue assez rapidement au fil de ces rencontres et donc j'ai développé effectivement ce rapport au produit en dehors du rhum de manière assez naturelle, et aujourd'hui j'ai une vraie appétence pour ce monde-là. Oui.
Super. Et Florent, toi, ton arrivée dans cet univers
Alors, je vais me permettre de parler aussi au nom de Laurent Payol, qui est notre troisième associé et qui est absent aujourd'hui pour cette interview. Alors, en ce qui nous concerne, Laurent et moi, on est rentrés dans l'univers des spiritueux, j'allais dire un petit peu par accident. Moi, j'avais fini mes études en Pologne, donc j'avais découvert pas mal de spiritueux axés principalement autour des vodkas et des vodkas travaillés autour de macération, donc des choses qui avaient des personnalités et des identités fortes. Et je rencontre Laurent dans le cabinet de conseil dans lequel on a tous les deux démarré notre carrière. On devient amis et puis en fait, au fur et à mesure du temps, on a envie d'avoir un espace de créativité que n'offrait pas l'univers du conseil, donc on décide de représenter quelques marques de ces vodkas polonaises qui avaient fait à la fois mon Erasmus et puis qui avaient un peu continué perpétué le lien que j'avais avec la Pologne en les ramenant en France et en les partageant avec mes camarades de bureau. Donc c'est à partir de là que la maison de l'hédonisme voit le jour avec Laurent et moi. Notre acquaintance avec les spiritueux, notre développement de la connaissance de cet univers-là se fait paradoxalement pas au moment où on monte la boîte, où c'est pas j'allais dire même à l'origine de notre envie de rentrer dans cet univers. Elle se fait plus par la suite avec, comme le disait François, un rapport de confiance et de découverte qui se fait avec des producteurs, avec des gens qui ont des partis pris, qui travaillent les produits, parce qu'à un moment ils ont justement une volonté d'exprimer quelque chose à travers leur création, que ce soit une forme de militantisme aromatique, que ce soit un militantisme de savoir-faire, et puis au fur et à mesure du temps, en fait, de cette petite aventure qui au départ était née plutôt en étant un jeu, on s'est rendu compte que on s'était un petit peu amouraché de cet univers et qu'en réalité on adorait ce rapport au terroir, à la création, et puis c'est à partir de là que on a commencé à avoir des idées qui au fur et à mesure du temps nous ont amené à nous rapprocher notamment de François, avec qui on partageait ces ambitions communes de création de produits et de valorisation de choses qui nous tenaient à cœur et dans un espace de liberté qui nous appartiendrait.
D'accord. Et si on parle maintenant un peu de votre rencontre avec H-Theoria, comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet-là ?
Alors, en ce qui me concerne, effectivement, la rencontre, donc, elle est déjà liée à Florent et Laurent, et Florent en particulier, puisque on travaillait déjà ensemble dans le cadre de la distribution des rhums Longto. Et forcément, en tant que premier partenaire de la distillerie, Florent me faisait découvrir bon nombre de spiritueux. Et un beau jour, c'est lui qui venait en Guadeloupe pour un voyage vers la Guadeloupe. Et il m'a ramené effectivement les trois échantillons des trois premières productions d'H-Theoria. C'était quasiment le début. Il m'a dit, il faut que je te fasse goûter quelque chose d'exceptionnel. C'est incroyable. Goûte, tu me dis ce que t'en penses. Et je me souviens très bien où on était, dans le petit gîte à côté de la distillerie. Et on a découvert effectivement les trois premières créations. Il n'existait pas Midi Fauve encore à l'époque. Et c'est un véritable coup de cœur. C'est-à-dire que vraiment emporté par la complexité aromatique d'une liqueur qui habituellement reste toujours assez simple. Une liqueur, c'est toujours très bon, mais c'est souvent monofruit ou avec quelques épices et c'est des choses assez classiques, assez singulières. Et là, on avait effectivement devant nous quelque chose qui nous emportait, qui nous faisait voyager. Et donc moi, ça, c'est ma première rencontre et c'est justement Florent qui m'offre cette rencontre avec H-Theoria.
Eh ben moi, la rencontre se fait directement avec les deux cofondatrices, donc Marlène et Camille. Camille m'avait sollicité parce que elles étaient toutes les deux dans une réflexion autour des problématiques et des enjeux de distribution. Et en fait, on se rencontre à la station F, donc c'est effectivement à l'époque du début de leur aventure. Et assez rapidement, moi, je me rends compte que avec la maison de l'hédonisme, j'ai à ce moment-là pas les qualités requise et nécessaire pour pouvoir leur apporter une véritable plus-value. Mais effectivement, j'ai adoré les produits et surtout, il y a une rencontre humaine qui a été très forte et puis qui se perpétue encore aujourd'hui et qui fait que, en fait, j'essaye de garder en tête l'idée qu'à un moment, je peux peut-être les accompagner d'une façon ou d'une autre, même si ça passe pas forcément par des solutions de distribution. Je deviens un petit peu prosélyte le plus possible, en tout cas à ma petite échelle personnelle de leur démarche. Et puis, par la suite, oui, j'ai la chance de pouvoir proposer à une oreille très réceptive à tout ce qui est très innovant et avec du caractère, à savoir François Longto, la possibilité de pouvoir travailler avec ces produits-là et avec autant les produits que les femmes qui les ont créés pour la Guadeloupe. Donc ça a été, c'est comme ça que ça s'est, j'allais dire, les choses se sont goupillées un peu au début. Et puis ouais, ça reste dans le fond. Et je me permets de parler en ton nom également, François, mais ça reste une histoire humaine avant tout, quoi. Il est difficile de dissocier dans la personnalité, dans la créativité, dans la générosité, la rayonnance de ce que peut être H-Theoria, que sont Marlène et Camille.
Oui, puis H-Theoria a toujours été, du coup, depuis ce jour-là, pour nous, quelque chose, et pour moi en tant que producteur, quelque chose de toujours inspirant. J'ai également en Guadeloupe une structure de distribution, donc après cette relation-là, Florent m'a mis en contact avec Camille et Marlène, et nous, on a distribué H-Theoria depuis 2020 en Guadeloupe. Donc là encore, ça m'a permis, moi, de rentrer encore un peu plus dans l'histoire de cette marque et la manière dont elle était fabriquée. Et c'est vrai que cette marque au quotidien et les filles derrière, forcément, ont toujours été très inspirantes pour nous en tant que producteurs, parce que jusqu'au boutiste dans l'aromatique, jusqu'au boutiste dans les interprétations aromatiques des produits qu'elles utilisaient. Et ça, ça a été une inspiration depuis toujours. Ouais.
D'accord. Et si maintenant on doit, je dirais, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans ce qu'est la marque H-Theoria. Donc, c'est une très belle marque de liqueur qui nous transporte vraiment dans des univers complètement différents. Ça a été créé par Marlène et par Camille. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la marque, ce qu'est H-Theoria, un peu ses univers et ses très belles liqueurs qu'on peut déguster?
Oui, bien sûr. Donc, H-Theoria, effectivement, déjà, c'est le premier élément. Ce sont des liqueurs. Donc, il y a du sucre, effectivement. Donc, ce sont des liqueurs qui, avec ce côté régressif, mais en même temps, avec une marque bien particulière, avec un nom bien particulier, c'est H-Theoria. Le H, c'est dans l'alphabet grec, c'est le lien entre la matière et l'esprit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est toujours permanent et depuis le début dans les créations de Marlène, en l'occurrence, sur effectivement cette capacité à, par la dégustation, par l'univers aromatique du produit, renvoyer à quelque chose de plus spirituel. Ça peut faire partie du voyage, ça peut faire partie d'une sensation, d'une émotion. Et ces liqueurs-là ont cette capacité, effectivement, de par la complexité aromatique, tel un grand spiritueux, à nous faire voyager. Donc, il y a aujourd'hui quatre cuvées, hein, donc Cuir Lointain, Amour Matador, Electric Velvet et Midi Fauve. Et chacune de ces créations-là ont été faites dans un état d'esprit, dans une envie de faire voyager dans un pays, dans un univers, ou un rappel à un moment donné. Si je prends un exemple, par exemple, la dernière création qui est Midi Fauve, c'est le rappel ou la sensation, effectivement, de la peau qui bronze au soleil. Donc, ce sont des éléments très importants et c'est dans cet état d'esprit-là qu'ont été créés les liqueurs. Donc, les liqueurs nous font voyager et on va tenter effectivement de faire perdurer ce voyage.
C'est toute la démarche expérientielle qui est mise en avant, que ce soit une démarche expérientielle organoleptique, aromatique, de dégustation, que ce soit effectivement la notion de voyage, que ce soit la sollicitation mémorielle que vont pouvoir apporter les complexités des liqueurs par rapport au passé et à la vie de chacun des consommateurs, de chacun des dégustateurs. C'est vraiment un espèce d'ensemble, c'est un univers mémoriel et artistique qui est très complexe. Mais c'est effectivement cette approche très expérientielle, j'allais dire presque d'introspection, qui va caractériser la démarche de ces liqueurs.
Et donc ces liqueurs ont été développés durant de nombreuses années. Je dirais que par la force des choses et comme beaucoup de projets, à un moment ou un autre, peut y avoir, je dirais, des embûches. Et vous êtes positionné pour reprendre cette marque et pour poursuivre son développement. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que l'idée de reprendre Acheteoria, de continuer son développement, s'est tout de suite imposée? Est-ce que vous avez échangé avec Marlène et Camille et il y a eu un déclic où vous avez dit peut-être qu'effectivement on peut faire quelque chose et on peut poursuivre ce développement? Comment est-ce que ça s'est passé? Et puis, je dirais qu'opérationnellement parlant, si je me trompe pas, vous avez créé tous les trois une structure nouvelle pour accueillir ce projet-là. Pourquoi et comment est-ce que ça s'est passé?
Alors il y a plusieurs questions et du coup plusieurs réponses à apporter. La réalité, c'est que les filles et particulièrement Marlène avaient communiqué sur les réseaux sociaux il y a tout juste à peu près un an, je pense, pour expliquer effectivement les difficultés qu'elles avaient. Alors c'est vrai qu'en tant que distributeur d'Acheteoria, on a suivi ce dossier-là de très près en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que c'est un peu plus tard, c'est-à-dire que c'est Camille qui moi m'a appelé pour me dire effectivement que la structure était en difficulté, que il y avait effectivement un risque que la marque disparaisse. Et donc elle m'a appelé et je te cache pas que son appel m'a pas laissé insensible, déjà pour l'amour qu'on avait, que j'avais moi pour cette marque, et puis parce que des structures familiales ou indépendantes qui vivent des difficultés, moi ça m'a touché en plein cœur et forcément on arrive dans cette aventure là avec une ambition mais aussi avec un respect pour le passé, donc cette émotion là a été forte. Et le lien avec Florent et Laurent s'est fait très vite, c'est-à-dire qu'à peine j'avais raccroché avec Camille, que j'ai appelé Florent tout de suite en lui disant « Écoute, j'ai un coup de fil un peu lunaire, j'ai l'impression que Camille a besoin de nous, il faut sauver cette marque, comment on fait ?» Alors évidemment, on prend pas le sujet à la légère, il y a plein de difficultés logistiques, structurelles, financières, fiscales, tout ce que tu veux. Mais ça a réveillé en nous un vieux projet qu'on avait effectivement avec Laurent et Florent depuis quelques années, de s'associer, déjà une volonté de s'associer. Encore une fois, Florent le disait, et c'est valable pour Marlène et Camille, mais c'est surtout aussi valable pour Laurent, Florent et moi, c'est-à-dire que d'une relation professionnelle est née une relation amicale et forcément une relation humaine très forte. Et donc, assez rapidement, depuis qu'on travaille ensemble, on s'est dit qu'on aimerait s'associer un jour pour travailler autour du monde des spiritueux. C'est un projet qu'on avait mis un petit peu en stand-by avec le Covid, les différentes crises, etc. Et forcément, l'opportunité HTROIA a réveillé en nous cette envie-là et donc on a décidé effectivement de créer Spiritologue.
L'état des lieux des difficultés d'HTROIA, moi j'ai pas je pense que tu as tout dit. L'enjeu effectivement plutôt de justifier, et c'est là-dessus que je reviendrai, de justifier la création de Spiritologue. Il y avait une vieille envie, au-delà d'une vieille envie, au-delà d'une amitié, parce que les envies et les amitiés, ça fait pas toujours une histoire qui marche dans le travail et dans les affaires. La réalité, c'est surtout qu'on avait des objectifs communs et une façon de voir les choses qui était commune, que ce soit avec François ou avec Laurent, et qu'à partir de là, on avait cette fibre humaine, on avait cette volonté, on avait cette curiosité aussi, parce que c'est vraiment une curiosité exploratrice qui nous motivait depuis plusieurs années pour la création d'une structure commune et de Spiritologue. Spiritologue était déjà un nom qui existait depuis quelques années, hein, donc on avait déjà dans les tuyaux un certain nombre d'idées et de plans sur lesquels on voulait plancher, et puis comme le disait François, tout était un peu retardé au fur et à mesure des crises des matières sèches, des difficultés des uns et des autres, du Covid qui nous a mis des coups de stress et des coups d'accélérateur. Donc, la structure Spiritologue était déjà un projet en tant que tel, et c'est vrai que HTORIA a été un motif à la fois humain de pouvoir préserver l'héritage de ce qu'ont construit les filles pendant 7 ans, et puis une façon aussi de se retrouver tous les trois autour de ce projet-là.
Donc aujourd'hui, vous avez créé tous les trois cette structure, Spiritologue, dans laquelle, je dirais, est incubé HTORIA. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vos expertises viennent soutenir le projet? Comment est-ce que tout cela est articulé?
Encore une fois, ce projet aussi existe parce qu'il y a une véritable synergie entre nous tous. Si on parle d'HTROIA précisément, il ne faut pas oublier que HTROIA et Spiritologue va maintenir ce partenariat historique avec la maison Gabriel Boudier, qui est un partenaire très important pour HTROIA historiquement, mais du coup pour nous maintenant aujourd'hui. Nous n'avons pas de site de production, ce site est directement à Dijon chez Gabriel Boudier. Donc les créations historiquement ont été faites par Marlène et sont assemblées et embouteillées chez Gabriel Boudier, sous la supervision évidemment de Marlène historiquement. Cette partie-là sera reprise effectivement par moi, donc avec la contrainte d'être à 8000 km, mais dans l'idée effectivement de toujours superviser. Donc on s'est déplacé d'ailleurs, Florent, Laurent et moi-même, chez Gabriel Boudier assez rapidement après la récupération du dossier, pour comprendre comment il fonctionnait, pour qu'on se fasse connaître et puis pour qu'on voit comment on peut continuer à fonctionner dans le futur. Donc les créations, effectivement, seront toujours de notre responsabilité, mais avec toujours la volonté d'avoir Gabriel Boudier comme partenaire important. Et ensuite, effectivement, la répartition des tâches en tant que distributeur, la Maison d'Hédonisme a tout son sens dans cette logique-là, mais je vais laisser plutôt Florent expliquer la synergie avec la Maison d'Hédonisme.
Alors la synergie avec Maison d'Hédonisme, elle se fait de deux façons. La première, là aussi je vais distinguer la notion de personne de la notion de structure. Elle se fait avec Laurent Payol qui lui va être, j'allais dire, est quand même à la manœuvre depuis 2013 à la Maison d'Hédonisme dans toute la partie structuration financière, comptable, donc qui permet aussi d'envisager des forecasts d'activité qui sont cohérents et de pouvoir repositionner la vente des produits avec des perspectives qui soient positives. Donc c'est là aussi le rôle de Laurent qui est très fort, très puissant et très complémentaire de ce qu'on peut apporter nous, François, j'allais dire majoritairement, même s'il a beaucoup d'autres compétences sur la partie création, moi sur la partie plus commerciale. Donc il a ce rôle qui est crucial et incontournable dans le projet. Donc c'est là aussi on a une synergie stratégique qu'on peut retrouver. Et au niveau des synergies de distribution, effectivement la Maison d'Hédonisme permet d'avoir une réponse à deux enjeux majoritaires pour le développement d'HTORIA, à savoir une solution logistique souple, simple et qui permette justement d'avoir un rapprochement expérientiel du client avec le produit, et une démarche commerciale qui soit orienté détaillant avec déjà des forces commerciales et un réseau puissant qui est créé sur lequel on va pouvoir s'appuyer notamment sur le côté détaillant. Acheteria rapporte aussi une empreinte qui était un axe d'amélioration et de développement pour la maison d'hédonisme, à savoir la capacité à pouvoir renforcer notre présence sur le CHR, sur lequel on avait, malgré notre historique, notre amour pour ces réseaux-là, une difficulté à se repositionner depuis la crise du Covid. Donc, Maison L'Hédonisme apporte une synergie logistique, une synergie aussi, je pense, quelque chose qui est important d'état d'esprit dans la capacité et la volonté systématique de pouvoir permettre la dégustation. Donc, énormément d'échantillonnage, énormément d'accompagnement auprès des différents partenaires, qu'il s'agisse de partenaires détaillants, de partenaires CHR ou du consommateur final, pour lui permettre de découvrir le produit et justement après derrière la capacité à rendre le produit peut-être tarifairement un peu plus accessible pour que l'expérience et que les actes d'achat, les engagements personnels soient plus simples, peut-être moins contraignants et que le produit puisse vivre dans des canaux de distribution ou à domicile chez les gens avec un peu plus de facilité que ce qu'ils nous pouvaient proposer jusqu'à présent.
D'accord. Et si on poursuit un peu dans cette thématique de vos envies, vos ambitions en termes de développement, en tant que consommateur, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Où est-ce qu'on pourra retrouver Acheteria? Est-ce qu'on pourra retrouver l'intégralité de la gamme? Comment est-ce que ça va se passer pour la suite?
Oui, là forcément, nous avons une petite phase de transition pour la récupération des stocks et la reproduction assez rapide de certains éléments. Mais l'ambition, effectivement, comme disait Florent, de pouvoir le mettre aux lèvres du plus grand nombre de consommateurs, ça passe aussi par l'expertise de la maison d'hédonisme, qui est quand même très forte depuis quelques années sur la notion de développement au niveau des cavistes, là où la marque était peut-être un peu plus absente. Également, effectivement, sur la partie CHR, donc ça ne change pas. Donc l'ambition, effectivement, c'est que les quatre références restent présentes et continuent à être développées, et avec l'ambition de créer au fur et à mesure de nouvelles gammes, alors plutôt dans des séries limitées, et avec effectivement une ambition de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice, tant à la fois sur la partie création que sur la partie innovation de futurs produits. Donc l'ambition est forte, et c'est ce que je dis souvent depuis qu'on parle d'Acheteria, c'est-à-dire que on n'est pas en reprise d'activité pour faire un joujou. Moi, j'ai une vraie appétence avec un savoir-faire historique. La distillerie Longteau fêtera ses 130 ans l'année prochaine. Je souhaite que Acheteria vive aussi longtemps. Donc l'idée, c'est de la faire durer dans le plus longtemps possible à nos côtés, évidemment. Hein. On a une vraie ambition sur cette marque pour la développer le plus longtemps possible avec l'ensemble de nos partenaires, évidemment.
Conservation des quatre recettes, une partie de création qui sera adjointe. Là, l'enjeu immédiat et effectivement plutôt de restabiliser la marque, de lui permettre de pouvoir s'épanouir avec les quatre opus historiques qui sont le fruit du travail des deux cofondatrices et puis par la suite, oui, de pouvoir donner aussi mettre notre patte sur cette partie produit avec des envies. Acheteria est une marque qui est quand même à la croisée des chemins, qui est particulièrement innovante et avant-gardiste, et elle l'est maintenant alors qu'elle l'était déjà il y a 5 ou 6 ans. Donc c'est encore un produit très très singulier, c'est encore une marque très singulière qui est à la croisée des chemins entre une partie cocktail RTD et une partie ingrédient cocktail, voire une partie bitter. Donc on est dans trois modes de consommation, dans trois utilisations initiales possible. À partir de là, il y a des déclinaisons dans plein d'autres univers qui sont envisageables, et avec une vraie expertise, un vrai savoir-faire, un vrai ADN. Donc c'est là, j'allais dire, comme évoquait François, on est dépositaire d'un héritage, hein, qui est celui du travail de Marlène et Camille, et à ce titre, on va le respecter et continuer dans cette voie-là, mais en allant aussi forer et explorer d'autres potentiels et d'autres modes de création.
Super. On a hâte de découvrir tout ça, et puis on a hâte de pouvoir goûter de nouveau la gamme Acheteria. Pour finir un peu sur vous, on comprend qu'il y a une vraie histoire d'amour, je dirais, entre les produits Acheteria. Quelle est la référence que vous préférez, et est-ce qu'il y a un cocktail que vous pourriez nous conseiller avec cette référence?
Et c'est une super question parce que en fonction de notre référentiel à acheter en rien, c'est pas la même. Historiquement, je n'avais pas la même liqueur préférée. Et forcément, en devant reprendre les productions, en tout cas les créations, et en s'impliquant de manière complètement différente, j'ai changé d'avis entre à l'époque où je distribuais Acheteria et maintenant où effectivement on doit continuer à produire Acheteria. Donc je vais plutôt parler de maintenant. J'ai une vraie appétence pour Amour Matador. Donc qui est composé effectivement en partie hein, de cette petite touche de tomate qui va apporter une complexité mais aussi un rapport au terroir qui me paraît très important. Et du coup je vais pas forcément être hyper innovant, mais une revisite d'un Negroni avec Amour Matador, c'est absolument magnifique. Voilà, encore une fois la notion de tomate et le côté rouge aussi du cocktail hein, c'est d'avoir quelque chose un peu presque rouge sang dans le verre, c'est absolument magnifique. Tu rajoutes le vermouth et tu détends avec un peu de gin, c'est absolument magnifique. Donc ouais, un Negroni revisité à l'Amour Matador, j'en ai fait quelques-uns depuis la reprise.
Superbe.
Alors, en ce qui nous concerne, là aussi, je vais parler pour Laurent parce qu'il se trouve qu'on a la même, préférence. Moi, je n'ai pas changé, François, par rapport à l'ancienne époque. Non, moi, j'ai toujours été fan absolu et ça a été peut-être parce que intellectuellement, justement, la démarche était suffisamment avant-gardiste pour que moi, ça me trouble un peu mes repères. Et mon premier coup de cœur est resté mon coup de cœur actuel parce que c'est mon premier rapport à la marque, parce que c'est un produit que j'adore. Et puis parce que c'est celui avec lequel j'ai également souvenir de la rencontre entre François et le produit en 2018 sur le petit bar de cette cahute cachée à côté du domaine. Donc ça reste Electric Velvet à l'époque hystérie et pour laquelle j'ai un amour inconditionnel. J'adore les équilibres d'acidité, la petite sucrosité, ce côté fruit rouge, cette gourmandise, et puis effectivement ce côté très strident, aromatique, qui reste et qui fait comprendre, j'allais dire assez simplement, le rapport émotionnel, visuel à la marque. Donc ça reste mon petit coup de cœur. Et puis comme on l'évoquait un petit peu en off tout à l'heure, moi je suis pas quelqu'un de très très compliqué sur les cocktails. Un joli sour bien fait avec un Electric Velvet, c'est vraiment ce qui me convient le plus, le côté très aérien, très léger qu'apporte le sour autour des petites notes d'acidité. Et puis c'est déjà très bien, ça respecte l'identité originelle de la création, ça lui donne ce côté un tout petit peu plus glouglou qu'on peut apprécier sur les sours. Ben voilà, je me retrouve dans cette simplicité.
Superbe. En fait, vous avez décidé de reprendre Acheteria pour pouvoir faire autant de cocktails que vous voulez sur les 130 prochaines années, c'est ça?
C'est comme ça qu'on avait monté la boîte de distribution au départ. On s'est dit, bon, bah voilà, ça nous permet d'avoir des appros faciles. Donc, finalement, on continue dans cette ligne-là.
Super. Bah, écoutez, un grand merci, messieurs, pour votre temps et puis pour vous nous avoir partagé un peu cette feuille de route pour Acheteria. On a hâte de continuer à déguster ces merveilleuses liqueurs et puis hâte d'en découvrir plus à l'avenir. Et puis pour les auditeurs de Devis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Merci Louis-Marie.
Merci.
Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.